journal est présenté par Camille Magnard.
Bonsoir. L'État sommet d'agir face au drame du logement indigne. C'est la maire communiste d'Aubervilliers qui interpelle ce soir le gouvernement après un deuxième incendie dramatique d'immeubles insalubres dans sa commune de banlieue parisienne. C'est toute l'église catholique qui est appelée à confesser son silence dans les scandales de pédophilie. Nous reviendrons dans ce journal sur les derniers propos très véhéments du pape François. En Iran, Total renonce bel et bien à l'un des gisements de gaz naturel les plus prometteurs de la planète par crainte des foudres américaines. Nous verrons aussi pourquoi la justice allemande est accusée de faire obstruction à l'enquête française qui vise le groupe Volkswagen dans l'affaire dite du Dieselgate. La colère d'une mère, la communiste Meryem Derkaoui, première élue d'Aubervilliers, en appelle à l'État ce soir pour lutter contre le fléau du logement indigne. Sa commune, au nord de Paris, a connu hier un incendie qui a fait 7 blessés graves dans un immeuble qui n'avait pas les autorisations pour servir de logement. Et déjà le mois dernier, une mère de famille et ses 3 enfants avaient été tués dans un incendie, cette fois dans un HLM insalubre d'Aubervilliers. Et voilà qui repose de manière crue la question des politiques publiques insuffisantes pour protéger les locataires tombés entre les des marchands de sommeil. L'État doit mettre plus de moyens pour reloger ces familles, selon Marie Huiban de l'association Droit au Logement.
Ce qu'on demande, c'est que les victimes de marchands de sommeil soient relogées. Ce qu'on demande, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des drames comme celui qu'il y a eu à Aubervilliers et que les familles, les personnes qui y habitent ces logements, ces taudis, ces logements insalubres et qui sont escroquiés par ces marchands de sommeil soient relogées immédiatement. Et que ça ne soit pas des procédures qui prennent des années et qui trop souvent débouchent sur l'expulsion des familles sans relogement. C'est ça, nous, ce qu'on demande, c'est qu'elles soient relogées immédiatement. Il y a des familles aujourd'hui qui vivent dans des taudis, qui vivent dans des logements insalubres, qui risquent de connaître le même sort que ce qui est arrivé aux habitants de l'immeuble d'Aubervilliers et qui ont fait des demandes de logement social et qui sont reconnus prioritaires d'ALO, etc., etc. Donc pour qui l'État devait les reloger et qui ne sont toujours pas relogés et qui continuent à rester dans leur taudis. Donc il y a des moyens à mettre pour le relogement de tous les habitants des taudis. Le problème, c'est que il y a donc toutes ces personnes, toutes ces familles avec des enfants, etc., qui vivent dans des logements qui sont insalubres, qui vivent dans des logements qui sont dangereux et à qui la seule autre alternative qu'on propose, c'est la rue. Et c'est inacceptable parce que dans la rue aussi, on meurt. Donc il faudrait que tout le monde soit relogé de manière décente sans avoir à attendre justement ce genre de drame.
Marie Huiban du DAL au micro de Maïwenn Bordron et la réponse ce soir du ministre Jacques Mézard en charge du logement pour qui la loi Élan qui a été adoptée fin juillet au Sénat montre bien, explique-t-il, que la lutte contre les marchands de sommeil est une priorité de l'actuel gouvernement. Un acte isolé visant la police, mais bel et bien un acte terroriste pour la police catalane, c'est bien cette piste qui est privilégiée après l'attaque d'un commissariat dans la banlieue de Barcelone tôt ce matin par un homme armé d'un couteau. Il a été abattu par les policiers avant d'avoir pu faire des victimes. La police régionale de Catalogne confirme que l'homme algérien installé dans la région depuis des années a bien invoqué Allah au moment de passer à l'acte. Aucun lien n'a pu être établi pour le moment avec une éventuelle cellule terroriste. L'impossible pardon dans l'église catholique et cette contrition publique toujours plus profonde exprimée aujourd'hui par le pape François une semaine après la révélation d'abus sexuels pédophiles perpétrés par des centaines de prêtres en Pennsylvanie ces 7 dernières décennies sur plus de 1000 enfants. Le pape avait déjà dit sa honte au nom du clergé catholique qui a trop longtemps couvert ces atrocités. Aujourd'hui, il a donc demandé pardon, évoquant des crimes qui doivent être punis par la justice des hommes et non plus celle de Dieu. C'est une correspondance depuis Rome de Marie Duhamel.
Des atrocités que le pape condamne avec force. Il dit prendre la mesure du traumatisme causé par ces révélations, des blessures qui ne disparaîtront jamais. Sa lettre est d'abord un mea culpa. Avec repentir, le pape reconnaît que l'Église n'a pas su être là où il fallait, agir en temps voulu, ne serait-ce que pour reconnaître les faits quand ils étaient commis. Il exprime sa honte de constater l'incohérence du clergé qui a démenti ce que sa voix proclame. Des enfants ont été négligés et abandonnés. Rien ne sera jamais suffisant pour demander pardon et réparation. Aussi, sa lettre est un appel au changement de mentalité dans l'Église. François exige la fin du cléricalisme. Les laïcs n'ont pas à protéger les prêtres. Tous les catholiques sont ainsi invités à dénoncer ce qui met en péril l'intégrité de la personne. Et pour provoquer un réveil des consciences, le pape exige enfin de chaque baptisé jeûne et prière pour marcher dans la vérité en soutenant le travail nécessaire de la justice.
Le pape François se rendra cette semaine en Irlande où il doit rencontrer des victimes d'un autre vaste scandale de pédophilie dans l'église. Les autorités santé congolaise, elle, décrète pour 3 mois la gratuité des soins médicaux dans 3 localités de l'Est de la République démocratique du Congo. La province du Nord Kivu, où selon le dernier bilan officiel, l'épidémie de fièvre Ebola a tué 50 personnes sur 64 cas de contamination confirmés. Le nombre d'individus ayant été en contact avec le virus a lui été revu à la baisse à 1600 personnes concernées. La gratuité des soins vise donc, selon les autorités sanitaires de RDC, à briser la barrière financière qui pourrait empêcher ces personnes de se faire soigner correctement. Plutôt renoncer à des milliards d'euros de bénéfices que de risquer de fâcher les États-Unis. Le groupe français Total officialise son désengagement en Iran, où il détenait pourtant la majorité des parts dans un gisement pétrolier annoncé comme l'un des plus riches au monde. Mais Total recule face à la menace de sanctions américaines après que Donald Trump a déchiré l'accord international sur le nucléaire iranien, et ce sans que l'Europe ne puisse grand-chose pour s'y opposer. Siavosh Ghazi est à Téhéran pour France Culture.
Le départ du groupe français Total constitue un coup dur pour le gouvernement iranien, qui comptait sur le retour des sociétés étrangères après l'accord nucléaire de 2015 pour relancer l'économie du pays. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire en mai dernier et le retour des sanctions américaines contre l'Iran, de nombreuses sociétés occidentales ont déjà quitté le pays. La compagnie Total, à la tête d'un consortium avec le groupe chinois CNPC et un groupe iranien, avait signé en 2017 un accord d'un montant de 5 milliards de dollars pour le développement de la phase 11 du champ gazier de Pars du Sud. Le président de Total avait expliqué ces derniers mois qu'il ne pouvait pas rester en Iran à cause des menaces de sanctions agitées par les États-Unis. Normalement, le groupe chinois CNPC doit remplacer Total à la tête du consortium, mais la compagnie chinoise n'a rien annoncé pour l'instant. Les autorités iraniennes, qui ont mené d'intenses négociations avec les pays européens pour contrer les menaces américaines, ne cachent pas leur déception. Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie iranienne a critiqué à demi-mot les responsables européens en affirmant que de simples déclarations n'étaient pas suffisantes et qu'il devait prendre des mesures concrètes contre les sanctions américaines afin de sauver l'accord nucléaire.
Siavosh Ghazi, les magistrats français pointent du doigt le manque de coopération de leurs collègues allemands dans l'enquête qu'ils mènent sur le scandale des moteurs diesel truqués. Le Dieselgate, déclenché il y a près de 3 ans, a vu en France l'ouverture d'une enquête pour tromperie aggravée à l'encontre du groupe Volkswagen. Mais cette enquête patine, disent aujourd'hui les juges, parce que la justice allemande rechigne à leur transmettre des éléments essentiels à l'instruction. Reste à savoir pourquoi, Hakim Kasmi.
Eh bien, parce que le parquet allemand justifie sa décision en expliquant que la diffusion d'informations et leurs homologues français risquerait de perturber l'avancée de l'investigation des juges allemands. Rappelons que c'est la 3e fois que la justice allemande refuse de répondre favorablement à la justice française dans cette enquête. Car l'affaire des moteurs truqués de Volkswagen pour réussir les tests anti-pollution n'a pas épargné l'Hexagone, où de nombreux clients se sont constitués partie civile. En France, 3 autres constructeurs sont visés par une enquête similaire, les Français Renault, PSA, ainsi que le groupe américano-italien Fiat Chrysler. Pour autant, la lutte contre la pollution des moteurs diesel, mais aussi essence, est encore loin d'être gagnée, car au-delà du groupe allemand Volkswagen, fort de ses 12 marques, face aux nouvelles normes anti-pollution imposées par Bruxelles à partir de 2020, pas plus de 14 grammes de CO2 par kilomètre, les constructeurs sont encore loin d'avoir trouvé la solution. En particulier les Allemands, notamment leur marque Premium, très gourmande en carburant avec leurs grosses cylindrées. La solution passera donc inévitablement par l'électrification des moteurs, un virage qu'ont bien pris des marques comme Toyota ou encore le groupe Renault-Nissan, pionnier en la matière, mais pas forcément les Allemands comme Volkswagen, Toyota et Audi, qui certes y sont mis, mais ont pris bien plus de temps avant d'y croire.
Et j'ajoute à Kim Kasmi que cet après-midi, des militants de l'ONG Greenpeace au Royaume-Uni ont bloqué le siège social du groupe Volkswagen avec ce mot d'ordre, ditch diesel, soit abandonner les moteurs diesel. Ils ont levé le camp au bout de quelques heures après avoir obtenu un rendez-vous avec le directeur général du constructeur allemand. Une banque française rattrapée par la BCE, c'est le Crédit Agricole qui se voit infliger une amende de plus de 4 millions d'euros. La Banque Centrale Européenne la sanctionne avec 2 de ses filiales pour avoir dérogé aux règles qui obligent les établissements bancaires européens à déclarer leurs fonds propres et limiter ainsi les risques d'une nouvelle crise bancaire en Europe. En ce qui concerne le temps, demain mardi, ce sera estival sur tout le pays à l'exception des rives de la Manche où le ciel sera très nuageux. En soirée, des orages devraient éclater sur les reliefs du sud. Les températures demain matin seront comprises entre 14 et 18 degrés avec des pointes à 19 voire 25 degrés sur le quart sud-est et la Corse. Merci à Brice Garcia qui réalisait cette édition avec Morgane Danan derrière la console.